Souvent, dans une démarche de perte de poids, on se tourne vers des techniques différentes. Certaines comptent des points, d'autres calculent les calories. Et il faut dire qu'aujourd'hui, notamment avec les montres connectées, on peut suivre parfaitement nos calories dépensées dans la journée. Et grâce à l'expertise d'Anne-Laure Larratte, diététicienne, vous saurez si le calcul des calories est vraiment une bonne idée pour maigrir.
Vous avez une question ?
On a la réponse.
Vous écoutez Conseil Sport, le podcast Bien-être, Santé, Nutrition de Décathlon. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Céciliane.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'ai pas pu venir jusqu'à toi, mais grâce à la technologie, on se voit, et on se voit plutôt bien, on s'entend aussi.
C'est bon, on se voit, on s'entend, on va bien pouvoir papoter pendant un petit moment.
Donc Anne-Laure, tu es diététicienne, c'est bien ça?
Exactement, je suis diététicienne depuis 2018. J'ai aussi une spécialisation en addictologie.
Alors ensemble, on va parler de perte de poids et de comptage de calories, de mathématiques. Parce que souvent, pour perdre du poids, on pourrait croire qu'une opération simple ferait bien le travail. On ingurgite moins de calories que celles qu'on a dépensées ou on dépense plus de calories que celles absorbées. Bon, dis-moi, est-ce que c'est une bonne pratique quand on veut perdre du poids ?
Alors, c'est pas une pratique mauvaise, mais j'ai envie de dire que si c'était aussi simple, il n'y aurait plus de problème d'obésité ou de surpoids dans le monde, et ça serait génial. Donc c'est pas aussi simple. Alors en fait, il faut savoir que déjà, le poids qu'on fait adulte, il est déterminé en grande partie par la génétique. Des études assez récentes montreraient qu'il y a une centaine de gènes qui serviraient à déterminer le poids qu'on ferait une fois adulte. Donc déjà, c'est pas de notre faute.
Voilà, ça c'est dit.
C'est ça. Ensuite, on peut aussi parler des traitements qu'on va prendre, qu'on a pris, le temps qu'on les a pris, le temps qu'on est en train de les prendre, le dosage. Hein. Tout ça, ça va jouer sur la prise alimentaire. Ça peut aussi jouer sur la manière dont les nutriments vont être stockés, vont être utilisés. Il y en a aussi certains qui peuvent jouer sur notre métabolisme, c'est-à-dire que avant, là où on dépensait nos calories de manière normale, les traitements vont ralentir ce métabolisme et pour la même activité, on va moins dépenser d'énergie. Et aussi, ça peut occasionner un peu de sédation, ce qui peut donc jouer sur la sédentarité et l'activité physique.
Ok, parce qu'on est trop fatigué à cause des médicaments.
Voilà, c'est ça. Il y a aussi les antécédents qui peuvent jouer, c'est-à-dire que on connaît tous l'effet yo-yo. Oui. Et bien cet effet yo-yo, ça peut faire augmenter le poids de forme. Imaginons, je fais 70 kilos, je décide de faire un régime, je descends à 60 kilos, en me restreignant de tous les côtés. Voilà, ouais. J'ai perdu 10 kilos, je suis contente, j'en ai marre de me priver, on remange de tout, et là le poids remonte de manière importante, de manière rapide, et on va reprendre en général plus que ce qu'on a pris. Si on accumule les régimes, c'est ce qui se passe, et à un moment, on a ce qu'on appelle le poids de forme. En fait, on a des graisses qui vont être localisées, qui vont plus partir. Et donc, le poids de forme est augmenté.
Ouais, donc à force d'entamer des régimes, finalement, on dérègle un petit peu notre organisme et le poids de forme, il évolue à chaque fois. On n'a plus de référentiel, en fait.
C'est ça. Enfin, en tout cas, le référentiel change. Et puis, on a aussi le niveau d'activité physique qui va jouer. Alors, le sport ne fait pas perdre du poids. Le sport ne fait pas maigrir, mais en faisant du sport, on va régulièrement augmenter notre masse musculaire qui va, elle, nous aider à dépenser plus de calories. Et donc, on va perdre du poids grâce à ce phénomène. C'est pas « faisons du sport et je maigris ». C'est « je développe ma masse musculaire, je m'affine, et grâce à ça aussi, je dépense plus de calories puisque le métabolisme augmente ».
D'accord, très clair.
Donc voilà, ça va être tous ces facteurs. Puis après, il y a aussi le facteur, hein, en ce moment, il y a le facteur du budget avec l'inflation. On peut savoir quoi manger, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Il y a aussi le stress, hein, et puis le rythme de travail. Qu'on travaille de nuit ou qu'on travaille de jour, par exemple, le corps fonctionne pas de la même manière, les organes fonctionnent pas pareil. On voit par exemple ceux qui travaillent de nuit, l'espérance de vie est diminuée. Bah, ça joue, par exemple. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui joue, les connaissances hein, et l'éducation.
D'accord.
Voilà, si on résume, le poids, c'est pas si facile, c'est multifactoriel. Donc le résumé est un simple comptage de calories, ce serait vraiment minimaliste. C'est une technique, donc compter les calories, qui peut être fiable dans certains cas, pas dans tous, mais en tout cas c'est pas très serein et pas très facile à tenir sur le long terme.
Pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors, j'entends, tu as donné quelques éléments, mais j'aimerais que tu ailles un peu plus loin. Pourquoi c'est une mauvaise idée de calculer ses calories quand on est dans une démarche de perte de poids ou de transformation physique?
En fait, ça va pas forcément être une très bonne idée parce que là où l'acte de manger devrait être plutôt inné, on devrait suivre ses sensations alimentaires, ses envies, eh ben on va intellectualiser la prise alimentaire. Donc l'acte de manger va devenir un acte purement comptable et réfléchi. On va suivre cette logique de « je réfléchis, je compte », quitte à se frustrer, on va du coup moins écouter ses sensations alimentaires et ses envies. Tout ça, ça peut donc occasionner une frustration. Si on va aussi dans ce sens-là, si on compte les calories, il faut aussi partir des bons chiffres. Il y en a beaucoup qui vont se baser sur le métabolisme basal. Est-ce que tu sais ce que c'est le métabolisme basal ?
Il me semble que c'est quand tu es allongé, c'est ça, que tu ne fais rien ?
C'est ça, quand on attend que le temps
passe.
C'est
ce que tu dépenses en tout cas quand tu ne fais rien.
Exactement, voilà, c'est les dépenses qu'on a quand on ne digère pas, quand la température est idéale, qu'on est en forme et qu'on attend que le temps
passe. Juste on se maintient en vie quoi.
Exactement.
On respire.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Donc si on se base sur ce simple calcul du métabolisme de base, bah, en fait c'est pas suffisant, puisque c'est pas ça la vie. Donc il faut toujours se baser hein, sur la dépense énergétique journalière, ou la DEJ, on l'appelle. Et en fait, la DEJ, elle va comprendre le métabolisme basal, plus notre activité physique, qui va dépendre de notre âge, de notre sexe et autres. Et là, du coup, le calcul est déjà meilleur. Les calculs, hein, les erreurs de calcul, ça peut provoquer des déficits trop importants, donc de la frustration énorme et donc un effet yo-yo multiplié, par
exemple.
Encore
plus fort.
Donc, faire des calculs, déjà, on part des bons chiffres. Mais faire des calculs, ça va aussi occasionner de la restriction et de la frustration, puisque on va classer les aliments en bons aliments et en mauvais aliments, ce qu'on appelle de la restriction cognitive. On va s'interdire les mauvais aliments, entre guillemets, puisque c'est ceux qui font grossir, et ça va tenir. Ça va tenir jusqu'au moment où ça tiendra plus. Voilà. On va être obsédé par ces aliments qu'on considère mauvais, dont on se prive tout le temps. Et puis, la tablette de chocolat, bah, c'est elle qui va y passer, quoi. C'est-à-dire qu'on va
en
pas
fait,
se contenter.
On
va pas
on
se contenter.
On pète un câble, quoi.
Exactement, c'est à peu près ça. Voilà. C'est le truc de un carré de chocolat, ça suffit pas. Il faut la tablette, on la mange en 2 minutes. Ah, ça va mieux. Et en fait, là, on va se dire, parce que le corps et la tête sont bien faites, ça va être ah, je manque de volonté, je suis super nulle, je ne tiens pas, c'est de ma faute, il faut que je recommence. Et donc, on va recommencer et on va rentrer dans des phases de restriction et de compensation en mode un peu interrupteur. Il y a un bon fonctionnement et il y a un mauvais fonctionnement et je passe de l'un à l'autre. Alors que la juste manière de faire serait plus de trouver un entre-deux.
Oui, tout ça imbibé de culpabilité.
C'est ça.
Et de stress.
Exactement.
Chaque moment où on doit manger, quoi.
Voilà, bah, sinon c'est moins drôle. Hein.
Ouais, ouais.
Donc voilà.
Et puis c'est pas comme si on devait manger qu'une fois par jour, donc
Exactement.
Le stress est permanent.
C'est ça, bah, c'est ça, tout à fait.
Et tout à l'heure, tu parlais de que c'était pas toujours pertinent. Est-ce qu'il y a des moments où le calcul des calories a une importance et est intéressant ?
Ouais, alors ça peut être pertinent hein, quand même, dans certains cas spécifiques, comme la dénutrition. La dénutrition, c'est une pathologie, ou sous-pathologie en tout cas, qu'on va retrouver dans des types de cancers, dans des pathologies métaboliques plutôt spécifiques. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans l'anorexie mentale, ou dans d'autres cas un peu plus particuliers qu'on va pas détailler aujourd'hui, effectivement. Donc, ça peut nous servir à comprendre pourquoi la personne perd du poids. C'est ça, la dénutrition, hein. C'est une perte de poids qui est pas forcément choisie, d'ailleurs. Donc, on va comprendre quels sont les apports, comment les augmenter, comment les réadapter, comment couvrir les besoins au niveau des nutriments. Voilà, ça va servir dans ce cas-là. Ça peut servir aussi, dans certains cas, pour les sportifs. La compétition sportive de très haut niveau, c'est un des cas où le calcul de calories peut s'avérer quasiment indispensable hein, pour avoir de bonnes performances, pour gérer le poids aussi. Par exemple, si quelqu'un doit partir en voilier pendant 40 jours, bah là, ça va être hyper important de compter les calories, les besoins, pour que la personne puisse survivre 40 jours, prévoir les rations alimentaires indispensables, tout ça.
Ah, super intéressant. Et pour les sports comme l'athlétisme, où je sais qu'ils comptent aussi beaucoup, parce qu'on dit que quand on est plus léger, on court plus vite, donc le poids est beaucoup surveillé, ainsi que dans les sports de combat. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux sportifs et sportives de haut niveau.
Ouais,
ils
c'est
sont
ça.
Encadrés.
C'est ça. C'est pas le sportif du dimanche qui fait de la boxe de temps en temps. Mmh. Ça va vraiment être, donc ouais, effectivement, la boxe, le judo, il y a des catégories de poids, par exemple. Il y a aussi certains autres sports, donc l'athlétisme. Personnellement, je fais de l'aviron et je sais que le poids est important puisque plus on est léger dans le bateau, plus on va vite aussi.
Mmh.
Donc voilà, mais c'est des cas spécifiques.
Oui, vigilance quand même. Enfin, c'est jamais anodin de toute façon de toucher à ça, quoi.
Et d'ailleurs, on voit hein, que le calcul de calories dans le milieu du sport, bah finalement, ils le font, mais c'est pas toujours très simple à appliquer. C'est pas toujours très simple à vivre non plus.
J'imagine qu'après, par exemple, à la retraite de leur sport, ils nécessitent peut-être un suivi un peu plus poussé au niveau alimentaire pour pouvoir retrouver un certain équilibre.
Ça peut, ouais, effectivement, hein, leur faire comprendre que leur corps a des besoins différents et que bah on n'est plus besoin d'être aussi vigilant que ça.
Alors, quels sont les indicateurs à prendre en compte pour une perte de poids qu'on dit dans les règles, donc sans avoir à rencontrer ce fameux effet yo-yo où on peut éviter de déclencher une certaine obsession et éviter de graviter évidemment autour des troubles des conduites alimentaires. Hein. Il y a ça dans ma question aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Alors, en fait, déjà, on va évaluer d'où on part. On va pas se dire je reprends un exemple. On va pas se dire, je mange que des céréales complètes et tout ça, d'un coup, en changement. On va déjà évaluer d'où on part. Quelles sont mes habitudes alimentaires, sportives? Quel est mon mode de vie? Est-ce que, par exemple, je mange à horaire régulier? Est-ce que je dors suffisamment? Donc, on fait le point sur tout ça. Et sur le comportement alimentaire. Pourquoi est-ce que je mange? Est-ce que je mange quand j'ai faim? Est-ce que je mange parce que je m'ennuie? Parce que je suis frustrée? Est-ce que je mange vite? Pas vite, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis ballonnée, j'ai un coup de barre après les repas. Tout ça, ça peut déjà nous donner des indicateurs.
Ok, donc on peut prendre son petit carnet et on peut noter tout ça si on a envie de...
Exactement.
De comprendre.
C'est ça. En fait, comprendre, c'est la première étape. Après avoir identifié tout ça, on peut se dire, alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et là, imaginons, mes habitudes alimentaires, bah, je mange des produits sucrés quasiment tous les jours. Ok, je peux peut-être diminuer un petit peu tranquillement. J'arrive plus à cuisiner, je prends des plats picards et ou beaucoup de plats préparés en ce moment. Ok, et ben je peux cuisiner un petit peu plus. Tiens, j'achète plus beaucoup de viande en ce moment, est-ce que j'ai pensé à la remplacer par autre chose? Voilà. Ensuite, ça va être redonner sa juste place aux aliments. Il n'y a aucun aliment interdit, en fait. Tout est autorisé, il faut juste donner sa juste place aux aliments. Par exemple, manger que d'haricots verts, un haricot vert, aliment considéré comme bon pour la santé, bah si on mange que ça, c'est pas très bien.
C'est pas varié, quoi.
Bah ouais, c'est pas varié, et en fait, vous aurez faim, quoi.
Grave.
Et comme le chocolat. Le chocolat, on se dit que c'est un aliment qui est mauvais pour la santé. Si on en mange un carré par jour, bah c'est pas mauvais. C'est si on en mange une tablette tous les jours que c'est embêtant. Mmh. Donc voilà, faut remettre un petit peu de nuance, un petit peu de contexte là-dedans. Voilà. Et puis en fait, on peut aussi travailler sur ses sensations alimentaires. J'ai du mal à ressentir la faim et la satiété. Ok, je vais essayer de prendre plus mon temps à table, de manger tranquillement, de bien mastiquer, de bien profiter. Et je vais voir comment ça se passe. Ah, je me sens mieux. Et puis dans mes vêtements, je suis un peu mieux. Ok, et on va dans ce sens-là, on continue. Donc ça va vraiment être ça, quoi.
J'imagine que le mieux, c'est de se faire accompagner pour tout,
ouais,
pour tout ça.
C'est vrai. Alors, on pense souvent que rencontrer une diététicienne, c'est un suivi qui s'engage sur des mois, voire des années. C'est pas forcément vrai, hein. Parfois faire juste une séance bilan, identifier les points et continuer tout seul, ça peut se faire. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment identifier certains petits points de bascule, y aller tranquillement, on change pas de comportement en claquant des doigts du jour au lendemain, parce que c'est la meilleure manière de pas les tenir.
Ouais.
C'est un petit peu comme dans tout, on décide pas qu'on commence à se mettre au sport et qu'on fait un marathon dès le lendemain. Ben non. Voilà. Et ben l'alimentation c'est pareil.
Je confirme.
Voilà, l'alimentation c'est pareil.
Progressif, toujours progressif pour que le corps ait le temps de s'adapter parce qu'on a quand même une sacrée machine.
Exactement.
Elle s'adapte à tout, mais par contre, elle peut se mettre en mode verrouillage si c'est trop radical.
Ouais,
en fait.
C'est ça, en mode verrouillage ou même se bloquer. Hein. Voilà, on change tout du jour au lendemain. Physiquement, c'est compliqué, mentalement, c'est dur aussi. Mmh. Et bien, on peut se dire, ah, ça me saoule, c'est trop dur, j'arrête, bam. En fait, si on est face à un mur, bah, ça nous semble impossible. Alors que si on met un petit muret, puis un petit muret, puis un petit muret, c'est un peu plus simple. Donc, voilà.
Ah ouais, c'est positif. J'aime bien cette dernière image.
Voilà. Donc vraiment, c'est on avance étape par étape, on construit son petit mur tranquillement jusqu'à ce qu'il soit bien solide. Parfois, il va tomber un peu, c'est pas grave. On va comprendre pourquoi il a pas tenu et on va reconstruire. Donc on va aussi éviter le foutu pour foutu, hein, qui fait qu'on passe, comme je disais, un mode interrupteur, j'allume, j'éteins, mode restriction et mode compensation ultime, quoi.
Bon, ben écoute, merci. Merci Anne-Laure, parce que je pense que ça va éclairer pas mal de personnes. D'abord comprendre pourquoi, enfin ses habitudes, sa façon de manger ou même de dormir ou de gérer son stress. Et puis ensuite, ensuite on se penche sur son assiette, sur les aliments qu'on choisit, sur sa façon de cuisiner. Et puis ensuite on voit, et surtout je pense que t'as aussi parlé de plaisir, de s'écouter, d'écouter ses besoins, de retrouver ses sensations aussi, se reconnecter à soi.
Et si on voit pas de résultats sur le poids, on peut s'inquiéter au bout d'un petit temps, mais j'ai envie de dire, déjà, se sentir mieux, retrouver du confort digestif dans la tête, c'est super. C'est une bonne première étape.
Super. Merci Anne-Laure.
Avec plaisir. Merci Céciliane.
À très vite. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et si vous en voulez encore, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires, je serai ravie d'y répondre.